Télégramme d'Arthur Holmwood au docteur Seward. 1er septembre. Appelé au chevet de père, plus mal. Lettre suit. Écrivez-moi longuement ce soir à Ring. Télégraphiez si nécessaire. Art. Lettre du docteur Seward à Arthur Holmwood. 2 septembre. Mon vieil ami, laissez-moi vous dire tout de suite que, selon moi, Miss Westenra n'est atteinte d'aucun trouble fonctionnel, d'aucune maladie. Pourtant, j'ai été terriblement frappé au moment où je l'ai revue. Hélas, elle n'est plus du tout ce qu'elle était à notre dernière rencontre. Bien entendu, il ne faut pas oublier que je n'ai pas pu l'examiner comme je l'aurais voulu. Notre amitié même rendait la chose assez difficile. Je vais vous dire exactement comment ma visite s'est passée, et de ces explications, vous tirerez vous-même vos conclusions. Alors seulement je vous mettrai au courant de ce que j'ai déjà fait et de ce que maintenant je propose de faire. Quand je suis arrivé à Ellingham, Miss Westenra m'a paru d'une humeur enjouée. Sa mère se trouvait près d'elle et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'elle faisait l'impossible pour dissimuler son véritable état afin de ne pas l'inquiéter. Car je ne doute pas qu'elle devine, si même personne ne lui en a parlé, combien la prudence est nécessaire à l'égard de Mrs. Westenra. Je déjeunais avec ces dames, et comme tous trois nous efforçâmes de nous montrer fort gais, cet effort eut sa récompense. Nous passâmes une bonne heure, au moins, à nous amuser réellement. Puis Mrs. Westenra monta se reposer, et je restai seul avec Lucie. Jusqu'au moment où nous fûmes passés dans son boudoir, elle feignit cette humeur joyeuse car les servantes ne cessaient d'aller et venir, mais aussitôt la porte refermée, elle laissa tomber le masque, et s'affalant dans un fauteuil, elle soupira et de la main se couvrit les yeux. Je lui demandai alors de quoi elle souffrait. « Si vous saviez comme j'aime peu parler de moi, » s'écria-t-elle. Je lui rappelai que le secret des confidences faites à un médecin est considéré comme inviolable. Mais je lui avouai toutefois que vous m'aviez dit votre inquiétude à son sujet. Elle saisit immédiatement la situation, et en quelques mots me laissa le champ libre. « Dites à Arthur tout ce que vous voulez. Si j'ai du chagrin, ce n'est pas pour moi, mais pour lui. » C'est pourquoi je vous fais part de mes impressions. Je vis tout de suite qu'elle était anémique, quoiqu'elle ne présente aucun des signes propres à cette maladie. De plus, par un heureux hasard, je pus examiner la qualité de son sang, car un moment après, elle se blessa légèrement à la main en ouvrant la fenêtre. Rien de grave, bien sûr, mais j'eus ainsi l'occasion de recueillir quelques gouttes de sang que j'ai ensuite analysées. Cette analyse donne un très bon résultat. D'autre part, je ne vois aucun symptôme inquiétant. Néanmoins, comme cet état anémique est évidemment le résultat d'une cause bien déterminée, je conclus que cette cause doit être d'ordre mental. Miss Westenra se plaint d'une certaine difficulté à respirer, d'un sommeil lourd, comme léthargique, souvent accompagné d'affreux cauchemars, dont pourtant sa mémoire ne garde pas le détail. Elle me dit que, enfant, elle était sujette à des crises de somnambulisme et que, à Whitby, cet été, ces crises l'ont de nouveau saisie et que même une nuit, elle est sortie de l'hôtel, endormie, et est montée sur la falaise où Miss Murray l'a retrouvée, mais elle m'assure que ces derniers temps, elle a passé des nuits tranquilles. Comme je ne sais trop ce qu'il faut penser de tout cela, j'ai fait ce qu'il me semblait le plus indiqué. J'ai écrit à mon vieil ami et maître, le professeur Van Helsing, d'Amsterdam, grand spécialiste des maladies de ce genre. Je l'ai prié de venir voir la patiente et, comme vous me dites dans votre dernière lettre, que vous prenez tous les frais à votre charge, je lui ai parlé de vous en précisant que vous êtes le fiancé de Miss Westenra. Ceci, mon cher Art, parce que vous en avez exprimé le désir, car je serai toujours fier et heureux d'aider Miss Westenra autant que je le puis. Quant à Van Helsing, j'en suis certain, il ferait tout pour moi, pour des raisons personnelles, de sorte que, peu importe en quelle qualité il vienne ici, il nous faudra nous en remettre à toutes ces décisions. Il peut, en certaines circonstances, paraître despotique, mais cela tient au fait que, mieux que personne, il sait ce dont il parle. C'est en même temps un philosophe et un métaphysicien, réellement un des plus grands savants de notre époque. C'est, je crois, un esprit ouvert à toutes les possibilités. De plus, il a des nerfs inébranlables, un tempérament de fer, une volonté résolue et qui va toujours au but qu'elle s'est proposé. Un empire admirable sur lui-même, et enfin une bonté sans limite. Telles sont les qualités dont il est pourvu et qu'il met en pratique dans le noble travail qu'il accomplit pour le bien de l'humanité. Je vous dis tout ceci pour que vous compreniez pourquoi j'ai une telle confiance en lui. Je lui ai demandé de venir tout à fait cessante et je reverrai demain Miss Westenra, mais pas chez elle, car je ne voudrais pas inquiéter sa mère par des visites trop fréquentes. Bien à vous, John Seward. Abraham Van Helsing, docteur en médecine, docteur en philosophie, docteur en littérature, etc., etc., au docteur Seward, 2 septembre. Mon cher ami, je reçois votre lettre et j'arrive. Je puis parfaitement partir sans attendre, aucun de mes malades n'ayant besoin de moi pendant un jour ou deux. Je les plaindrais s'il en était autrement, car rien ne pourrait m'empêcher d'aller vers mon ami qui m'appelle pour assister ceux qui lui sont chers. Dites à ce jeune homme que le jour où vous vous êtes précipité pour sucer le poison qui menaçait d'envenimer la blessure faite par le couteau que, dans un geste maladroit, notre autre ami avait laissé glisser, vous avez donné à ce jeune homme, et plus qu'il ne le supposera jamais, le droit de recourir à mes soins. Et vous-même, vous êtes mis en droit de demander ses jours pour lui, et cela sans qu'intervienne le moins du monde l'importance de sa fortune. Mais que ce soit un de vos amis que j'aide, ce m'est un plaisir d'autant plus grand. Ayez la bonté de me retenir un appartement au grand hôtel de l'Est, proche de la demeure de notre malade, et prévenez la jeune demoiselle que nous la verrons demain matin, car il se peut tout de même que je doive revenir ici demain soir. Mais s'il le fallait, je retournerai à Londres dans 3 jours et je pourrai alors y rester plus longtemps. Au revoir, mon ami. Van Helsing. Docteur Seward à l'honorable Arthur Holmwood, 3 septembre. Mon cher Art, Van Helsing est venu et reparti. Il m'a accompagné à Hillingham. Mrs. Westenra, déjeunant dehors, nous fûmes donc seuls avec Lucie. Van Helsing l'a examiné très sérieusement. Il doit me faire part de son diagnostic, car naturellement, je n'ai pas assisté à tout l'examen. Je crois toutefois qu'il est inquiet, mais il m'a dit qu'il devait d'abord beaucoup réfléchir et chercher. Quand je lui ai parlé de notre amitié et de la confiance que vous me témoignez en cette affaire, il m'a répondu « Il faut absolument qu'il sache tout ce que vous pensez et tout ce que je pense, moi, pour autant que vous deviniez mes pensées. » Non, je ne plaisante pas. Il s'agit d'une question de vie ou de mort, et peut-être d'autre chose encore. Je le priais de s'expliquer davantage, car il avait prononcé ces mots sur un ton des plus graves. Cela se passait à notre retour en ville. Nous prenions une tasse de thé avant son départ pour Amsterdam. Mais j'eus beau le questionner, il ne voulut rien me dire d'autre. Ne m'en veuillez pas, Art. Ce silence, chez lui, montre qu'il pense à la malade. Qu'il étudie minutieusement le cas qu'il cherche en faisant appel à toute sa science. Il parlera plus clairement quand il saura ce qu'il doit savoir, soyez-en certain. Je lui ai donc dit que je me bornerai à vous raconter notre visite, exactement comme si je rédigeais un article spécial pour le Daily Telegraph. Mais sans paraître m'écouter, il a fait la remarque que l'air, à Londres, n'était plus aussi chargé de suie qu'au temps où il était étudiant. Je recevrai vraisemblablement son rapport demain. En tout cas, j'attends une lettre. Bon, maintenant notre visite. Lucie était plus gaie que le premier jour où je l'avais vue et sa mine certainement meilleure. Elle ne regardait plus de ces yeux qui vous avaient tant effrayé et elle respirait normalement. Envers le professeur, comme d'ailleurs envers tous ceux qui l'approchent, elle fut très aimable et elle s'efforça de paraître très naturelle devant lui, encore que... Pour y parvenir, le pauvre dut visiblement lutter contre elle-même. Van Helsing, je pense, le remarqua comme moi, car je vis qu'il lui jetait sous ses sourcils en broussaille le coup d'œil rapide et pénétrant que je connais depuis si longtemps. Il bavarda de choses et d'autres, sauf de nous-mêmes et de maladies, et il mettait dans ses propos tant de bonne humeur que bientôt chez Lucie, ce qui, jusque-là, n'avait été que feinte, se changea en une gaieté réelle. Alors, continuant apparemment la même conversation doucement, il en vint à faire allusion à l'objet de sa visite. « Ma chère demoiselle, déclara-t-il, le si grand plaisir de venir vous voir m'a donné uniquement parce que l'on a pour vous un très grand amour, et cela est tellement précieux, croyez-moi. On m'a dit que vous étiez très pâle et fort abattu. J'ai répondu « Il fit à mon adresse un léger mouvement de la main et « Nous allons, vous et moi, leur prouver à tous deux qu'ils ont tort. « Comment peut-il ?» Et il me désigna du même regard et du même geste dont il m'avait désigné dans sa classe un jour, lors d'un incident qu'il ne manquait jamais de me rappeler. « Comment pourrait-il connaître quelque chose aux jeunes demoiselles ? Il doit s'occuper de ces malades, les soigner, leur faire retrouver le bonheur et les rendre à ceux qui les aiment. Oh, certes, ce n'est pas rien, mais la récompense de nos efforts, justement, c'est d'être à même de rendre aux malades, avec la guérison, le bonheur. Quant aux jeunes demoiselles, il n'a ni femme ni fille, et les jeunes filles ne se confient pas aux jeunes gens, mais aux vieux messieurs comme moi qui ont, au cours de leur vie, vu tant de souffrances autour d'eux, si même ils n'en ont pas connu eux-mêmes, et qui en ont pénétré les causes. Aussi, ma chère amie, nous allons l'envoyer fumer une cigarette au jardin pendant que nous bavarderons ensemble quelques instants. J'obéis aussitôt et j'allai me promener autour de la maison. Van Helsing ne fut pas long à m'appeler par la fenêtre. Lorsqu'il m'eut rejoint, il m'expliqua. Je l'ai très bien examiné, mais je ne trouve aucune déficience fonctionnelle. Comme vous, je pense qu'elle a dû perdre beaucoup de sang, qu'elle a perdu. Vous m'entendez, car il est certain qu'elle n'en perd plus pour le moment. Toutefois, il n'existe non plus chez elle aucun symptôme d'anémie. Je lui ai demandé de m'envoyer la femme de chambre à qui je voudrais poser une ou deux questions afin d'être renseignée le plus exactement possible. Mais je sais déjà ce que cette servante me répondra. Et pourtant, il y a une cause à cet état maladif. Il existe toujours une cause à tout. Je vais donc retourner à Amsterdam et réfléchir. Vous me télégraphierez chaque jour et, si cela est nécessaire, je reviendrai. Cette maladie, car de toute façon il s'agit d'une maladie, m'intéresse beaucoup, de même que cette charmante demoiselle. Oui, elle est vraiment charmante et je reviendrai volontiers pour elle seule, même si vous n'étiez pas là et si elle n'était pas malade. Je vous le répète, il n'a pas voulu m'en dire davantage, même lorsque je fus seul avec lui. Maintenant, Art, vous en savez autant que moi. Ayez confiance en moi. Je surveillerai de près notre cher malade. J'espère que notre père va mieux. Je me mets à votre place. Cela doit être terrible de savoir en danger les deux êtres qui vous sont les plus chers au monde. Je comprends parfaitement le sentiment du devoir qui vous fait rester auprès de votre père, mais si l'état de Lucie s'aggravait, je vous écrirai de revenir tout de suite. Donc, si vous ne recevez pas de mes nouvelles, ne soyez tout de même pas trop inquiet. Journal du Dr. Seward, 4 septembre. Notre malade zoophage est de plus en plus intéressant à observer. Il n'a plus eu qu'une seule crise. Hier, à midi, un peu avant que sonnent les 12 coups, il devint agité. Reconnaissant le mal aux symptômes habituels, le surveillant fit aussitôt demander de l'aide. Heureusement, on arriva immédiatement, car alors que midi sonnait, le malade entra dans une telle fureur que les hommes n'eurent pas trop de toute leur force pour le maintenir. Au bout de 5 minutes, toutefois, il commença à se calmer et, finalement, tomba dans un état de mélancolie qui dure encore. Le surveillant me dit qu'au paroxysme de la crise, il poussait des cris effrayants. J'eus fort à faire quand j'allai le voir, et de plus, j'eus à m'occuper d'autres malades que ces cris avaient plongés à leur tour dans un véritable état d'épouvante. Ce qui ne m'étonne nullement, car ces cris m'ont paru insupportables à moi-même, qui me trouvais pourtant loin du cabanon. C'est maintenant l'heure du dîner pour les pensionnaires, mais Renfield reste à bouder dans un coin, tout en ruminant quelques idées, dirait-on. Je n'y comprends rien. Un peu plus tard, autre changement chez mon malade. À 5 heures, je suis retourné le voir, il m'a semblé très content de son sort. Il attrapait des mouches et les mangeait, et il notait chacune de ses captures en faisant à l'aide d'un de ses ongles une marque sur le chambranle de la porte. Quand il me vit, il vint vers moi en s'excusant de sa mauvaise conduite, et il me demanda, me supplia presque, de le faire ramener dans sa chambre, où il pourrait à nouveau écrire dans son calepin. Je crus bien faire de lui passer ce caprice. Pour le moment, il est donc dans sa chambre, dont il a ouvert la fenêtre. Il a éparpillé le sucre de son thé sur le rebord extérieur et il reprend des mouches en grande quantité. Mais cette fois, il ne les mange pas. Il se contente de les mettre dans une boîte, ainsi qu'il faisait auparavant, et déjà il examine les coins de sa chambre à la recherche d'une araignée. J'ai tenté de le faire parler des jours qu'il vient de passer, car le moindre fil conducteur de ses pensées m'eût aidé considérablement dans mon travail, mais rien ne le fit sortir de son silence. Un instant, il parut très triste et dit alors tout bas, d'une voix à peine perceptible, comme s'adressant plus à lui-même qu'à moi, « C'est fini, c'est fini, il m'a abandonné. Maintenant, je ne dois plus rien espérer, à moins d'agir moi-même. » Puis, se tournant vers moi d'un air résolu, il reprit, « Docteur, voulez-vous être très bon pour moi ? Demandez que l'on m'apporte encore un peu de sucre. Je crois que cela me fera du bien. » Et les mouches ? Bien sûr, les mouches l'aiment, elles aussi. Et moi, j'aime les mouches. Voilà pourquoi j'aime le sucre. Et il y a des gens assez ignorants pour croire que les fous ne peuvent pas lier l'une à l'autre plusieurs idées. Je lui fis donc apporter une double ration de sucre, et c'est un homme très heureux que je quittai. Minuit. Nouveau changement chez Renfield. Je revenais de chez Miss Westenra, que j'avais trouvé beaucoup mieux, et je m'étais arrêté sur le seuil de l'établissement, désireux de contempler encore un peu le soleil couchant, quand je l'entendis, qui hurlait à nouveau, et d'autant plus distinctement que sa chambre se trouve en façade. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur que je me détournai du spectacle admirable qu'offrait le soleil couchant, illuminant Londres comme à travers une brume teintée d'or, pour me retrouver devant cette façade de pierre, triste et d'aspect sévère, qui cache tant de misère humaine. J'arrivai dans la chambre de Renfield, au moment même où de sa fenêtre je pus voir le soleil sombrant derrière l'horizon. Depuis quelques minutes déjà, la fureur de mon malade se calmait peu à peu, mais à l'instant précis où le disque rouge disparut, il glissa d'entre les mains qui le retenaient et tomba tel une masse inerte sur le plancher. Il est étonnant de voir à quel point nos malades peuvent soudain recouvrer la raison, même si ce n'est que passagèrement, car en l'espace de quelques minutes, celui-ci se releva très tranquillement et regarda autour de lui. Je fis comprendre au surveillant qu'il devait le laisser agir à sa guise, car je voulais voir ce qui allait se passer. Il se dirigea immédiatement vers la fenêtre et fit disparaître le peu de sucre qui restait sur la pierre, puis il prit la boîte où il enfermait ses mouches, laissa les mouches s'envoler et jeta la boîte. Enfin, il ferma la fenêtre et revint s'asseoir sur son lit. « Vous ne voulez donc plus de mouches ?» lui demandai-je. « Non, répondit-il, ces bestioles de rien du tout, j'en ai assez. » Que ne puis-je vraiment saisir la cause de ces crises ? Attention, peut-être en trouverions-nous la véritable raison si nous savions pourquoi, aujourd'hui, sa fureur a atteint un point extrême à midi juste, puis au soleil couchant. Faut-il penser que le soleil a une influence maligne qui, à certains moments, affecte certaines natures, comme la lune, parfois, en affecte d'autres ? Nous verrons. Télégramme du docteur Seward, Londres, au professeur Van Helsing, Amsterdam, 4 septembre. Malade beaucoup mieux aujourd'hui. Télégramme du docteur Seward, Londres, au professeur Van Helsing, Amsterdam, 5 septembre. Malade de mieux en mieux. Appétit excellent, sommeil naturel, bonne humeur, couleurs reviennent. Télégramme du docteur Seward, Londres, au professeur Van Helsing, Amsterdam, 6 septembre. Sérieuse aggravation, venez immédiatement, sans perdre une heure.